Bonjour Bernard Manteau.
Bonjour Madame Roche. Bonjour à vous.
Nous accueillons donc Bernard Manteau, auteur de nombreux ouvrages. Je vais lui poser un certain nombre de questions, mais si vous souhaitez, vous pourrez aussi à votre tour lui poser des questions. Bernard Manteau, il y a 20 ans, vous quittiez votre cabinet de kinésithérapeute pour vous consacrer à cette recherche qui vous passionne, celui du fonctionnement de la nature humaine. Il y a un siècle, Freud, suivi de Jung, Lacan, Otto Rank, inventait la psychanalyse. Et un siècle après, vous sortez, vous publiez ce livre assez imposant qui s'intitule « La psychologie nucléaire ». Et ce livre nous propose une cartographie de la vie intérieure assez précise. Et cette psychologie nucléaire a une composante, la psychanalyse corporelle. Alors j'aimerais savoir, Bernard Manteau, comment est née la psychanalyse corporelle ?
La psychanalyse corporelle est née d'un accident de kinésithérapie, c'est-à-dire au décours de ma formation d'ostéopathe. Sur ma table de travail, mes patients se mettaient, et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi d'ailleurs, se mettaient à avoir un monde émotionnel intense qui les faisait pleurer. Et à la fin des séances, je n'arrivais pas, même en les faisant parler, à leur faire exprimer, dans une espèce de rudiment de psychothérapie, à leur faire exprimer pourquoi ils pleuraient, et même ils pouvaient en avoir aucune idée. Et donc là, où on est devant une situation et on se dit, il faut que j'élimine cette situation et dorénavant, il faut que j'ai une attitude thérapeutique qui ne me permette plus à mes patients d'avoir une vie émotionnelle, ou au contraire, on se dit, comment se fait-il que mes patients ont une vie émotionnelle et on cherche à comprendre ce qui se passe. Donc je crois que les débuts de la psychanalyse corporelle sont cette espèce de moment en 1980 où quelques patients se mettent à avoir des émotions non identifiées, sincères et non identifiées. Et de ce paradoxe est né mon intérêt pour ce qui se passait.
Nous connaissons la psychanalyse verbale, mais qu'apporte de plus cette psychanalyse corporelle ?
Je ne dirais pas de plus. D'abord, je suis très honoré d'être invité à ces journées du livre psy parce que je n'appartiens pas à cette famille. J'ai beaucoup de respect pour ce travail, pour cette compréhension, pour cet état des lieux de la vie intérieure. Je crois que notre vocabulaire et notre technique est différente, mais je crois qu'il y a des milliers d'outils qui ont permis à l'homme préhistorique d'explorer le monde extérieur et que nous sommes au Moyen-Âge de la découverte de la vie intérieure et que la psychanalyse est un outil, la psychanalyse verbale est un outil et que nous sommes peut-être en train de cerner un autre outil qui pourrait être une psychanalyse corporelle. Si je devais vous donner une image de sur quoi elle est fondée, la psychanalyse corporelle, je vous dirais, si je vous dis qu'est-ce que vous avez fait il y a 20 ans, l'été de 1975, vous allez vous apercevoir que c'est assez complexe psychiquement de se souvenir qu'est-ce qu'on a fait l'été 75. Or, il existe une situation qui vous remettrait en deux secondes dans l'été 75, c'est si je passe le tube de l'été 75, le tube musical qui a bercé, et cette fois-ci, on va sans aucun effort psychique se retrouver non pas dans le souvenir de l'été 75, mais dans les espèces d'ambiance, très très subtiles même, très très fines, que si on s'en était souvenu de l'été 75, on s'en serait pas souvenu avec autant de précision. Eh bien, imaginez qu'en 1980, par les hasards d'une maladresse ostéopathique, que l'on va au contraire développer au lieu de l'empêcher de s'exprimer, on découvre des espèces de mouvements tubes, on va dire, si vous me permettez la comparaison, des espèces de mouvements tubes de l'été qui vont nous donner le sentiment de ce qui s'est passé à certains instants cruciaux de notre vie. On ne le sait pas en 1980, il va nous falloir 10 ou 15 ans pour comprendre ce qui se passe. Globalement, il existe en nous, dans notre corps, mis en certaines situations, des mouvements qui vont se développer et qui au départ n'ont aucun sens. C'est ce qui fait qu'ils proviennent, ils sont complètement inconscients. Ils n'ont aucun sens et il va falloir une certaine domestication du sens et de la peur en particulier de ce sens pour que petit à petit, l'être qui vit ces mouvements et qu'on va encourager à vivre ces mouvements se mette à comprendre qu'il raconte avec précision, comme le tube de l'année 75 raconte l'été 75, ils peuvent raconter des moments qui ont eu lieu, des moments précis, des moments nœuds qui ont eu lieu, la première année, la deuxième année, la troisième année de l'existence, voire même, puisqu'à partir de 1985, ces moments-là sont même devenus des moments de naissance, voire même la naissance.
Et comment vous faites pour solliciter le corps pour qu'il raconte ce qui lui est arrivé ?
Je crois que c'est assez comparable à la psychanalyse orale. On ne fait rien, la personne s'assoit et elle parle. En psychanalyse physique, la personne arrive et elle se couche. Ensuite, de la même manière que le psychanalyste est assis derrière ou devant, puisque j'ai découvert qu'il y avait un problème de la façon dont il était assis, nous sommes à côté, nous indiquons au corps quelque chose qui est à partir de notre habitude et de notre connaissance du corps, l'endroit où le corps, en tension, nous raconte qu'il lui est arrivé des choses. Et ce corps en tension dans une épaule, dans une main, dans une cheville, dans une rotation de genou, dans une attitude du corps, raconte qu'à cet endroit-là, il n'est pas détendu, il tient quelque chose, il tient à quelque chose. Ce corps auquel on indique qu'on a vu quelque chose, essaye dans un premier temps, pris en flagrant délit d'une tension, de raconter dans un mouvement extrêmement confus qu'il y a quelque chose dedans. Et puis en insistant et en montrant au corps que oui, il y a quelque chose dedans, on va peu à peu, comme un réglage de téléviseur qui va se mettre à faire une espèce d'image de plus en plus claire, la personne va se mettre à avoir un mouvement et en même temps elle reste complètement consciente, seulement les yeux fermés pour ne pas être happée et distraite. Elle reste consciente et elle assiste à quelque chose que son corps fait. Et peu à peu, ce corps va rentrer en précision, va rentrer en confidence avec cette autre partie de la personne qui y assiste. Alors ensuite, à la fin de la séance, on le fait exprimer aux personnes de manière à ce qu'elles conscientisent ce qu'elles ont vécu. Mais globalement, nous ne faisons rien d'autre qu'au départ indiquer au corps que nous avons vu une tension et demander au corps qu'il nous explique depuis quand cette tension existe.
Et est-ce qu'on peut se fier à ce que la personne exprime corporellement parce que les défenses de l'ego ne sont-elles pas actives aussi à cet endroit-là ?
Je crois que, comme dans toute psychanalyse, il y a des couches. Je crois qu'il y a des couches. Nous traversons des couches de sincérité dans cette espèce de voyage et de rencontre avec nous-mêmes et qu'au départ, celui qui raconte sa misère et l'observateur de cette misère sont très copains et très malhonnêtes tous les deux. Il y en a un qui raconte ce qui plaît à l'observateur et l'observateur fait semblant de ne pas tout avoir vu. Et petit à petit, il s'agit de bien séparer l'écran de télévision de celui qui regarde la télévision. Et à un moment donné, depuis 20 ans, de toute façon, ça ne souffre aucune possibilité. J'aimerais beaucoup le partager avec des psychanalystes. À un moment donné, il y a une espèce de ton du corps et de la parole et du geste. Il y a une espèce de façon d'être qui ne souffre aucune discussion. Je veux dire que même si nous-mêmes on en doutait, la personne en question dirait qu'on n'a rien compris. Il y a une espèce de sincérité ultime où la personne sait que ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient de revoir lui est arrivé et que ça n'appartient plus à l'interprétation. Tant que la personne ne sait pas avec certitude, il lui est demandé de douter. Je crois que le doute est une bonne sécurité dans la vie intérieure. Tant que nous doutons, c'est une bonne chose, c'est que nous ne pouvons pas affirmer.
Est-ce que le public souhaite poser des questions ?
C'est un petit peu tôt, peut-être. Non, pas du tout.
Je suis bien content qu'il y ait des successeurs à Reich, qui était un psychanalyste incompris aussi à son époque.
Oui, je ne suis pas certain d'être incompris. Hein.
À son
C'est
époque,
un privilège.
Lui, à son époque, a été incompris. Je voulais simplement faire part de ça.
Je vous remercie. Madame.
Ça Simplement, bonjour. Moi, je ne connaissais pas les deux termes associés l'un à l'autre, la psychanalyse corporelle, je l'ai découvert tout à l'heure. Donc, je suis un peu friande d'un peu plus de connaissances pratiques, tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vous voir un peu comme on va voir qui. Alors, comme on va voir, vous êtes unique, hein, je ne veux pas vous amalgamer à qui que ce soit, mais je veux dire, on vient vous voir. Parce qu'on a, on a une autre approche de son corps ou
je crois que la particularité que nous avons, c'est que nous sommes issus de la tradition spirituelle. C'est-à-dire que pour nous, le travail sur le passé est un ingrédient de la scolarisation intérieure, est un ingrédient du travail de transformation intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas en soi extrêmement important de retrouver son passé, si ce n'est pour mieux vivre au présent, si ce n'est pour appuyer la pratique que nous faisons au présent. Donc, en fait, si vous voulez, il y a une vingtaine d'années, quand nous commençons à faire ce travail, il se trouve qu'il est doublé d'une quête de transformation intérieure dans l'ordinaire, puisque notre travail est extrêmement dans l'ordinaire. C'est-à-dire que nous considérons que nous nous levons le matin avec le moins bien de nous-mêmes et que nous pourrions commencer à travailler sur nous pour finir la journée avec le meilleur de nous-mêmes. Mais que si nous ne faisons rien, nous restons avec le moins bien de nous-mêmes, ce qu'on va appeler la personnalité traumatique. Cette personnalité traumatique, elle nous est offerte parce que l'évolution humaine a eu lieu et que nous naissons avec la complexité de l'évolution humaine. Aujourd'hui est déposé en nous quelque chose qui, chaque instant, attend de nous quelque chose d'autre. Nous pourrions chaque fois dire mieux bonjour, chaque fois dire mieux au revoir, chaque fois mieux manger, chaque fois mieux rouler en voiture, chaque fois mieux promener le chien, chaque fois mieux ranger nos placards. Il y a une espèce d'attention que nous pourrions avoir, qui existe dans le soufisme, qui existe dans d'autres voies spirituelles. Il y a une espèce d'attention que nous pourrions avoir, non pas à notre petitesse en tant que tare, mais à notre petitesse en tant que point de départ d'une grandeur possible. Donc nous ne travaillons pas en thérapie. Nous travaillons que dans des gens qui sont dans le décours d'un travail sur eux-mêmes et dont l'une des classes de la scolarité intérieure va être une recompréhension de leur passé. Non pas en tant que finalité, mais en tant que moyen de plus facilement comprendre la petitesse chronique dont nous disposons tous les jours aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai deux questions, si vous permettez. Une, c'est comment vous amenez donc à l'écoute. La personne est là et on fait parler son corps. Comment vous l'avez mené, de quelle façon? Et la deuxième question est très différente. Quand vous parlez de passé, moi j'entends passé là immédiat et un passé qui peut donc provenir de vie antérieure, de vie passée. Donc comment vous faites pour pouvoir, parce que le corps donc est programmé, il a plein de choses en lui. Et est-ce que la personne qui est à votre écoute peut décider aussi, accepter que son corps délivre les informations, parce que le corps a tellement l'habitude de fonctionner d'une façon, est-ce qu'il peut se délivrer les informations du moment, et puis un mois après sera autre chose? Donc ça, j'aimerais si vous pouvez développer, mais la première question aussi importante, comment vous arrivez à faire parler le corps, s'il vous plaît?
Je pense, si vous voulez, qu'il y a... Après, il y a un problème de technique. Donc si vous voulez, je peux effectivement vous dire comment techniquement nous faisons parler le corps. Il y a un problème de technique, mais globalement déjà, je pense qu'il y a un problème de, un, les personnes qui viennent nous voir ont choisi cette technique, et donc par définition, elles ne viennent pas en disant « je vais bloquer mon corps ». Encore que même si on a choisi cette technique, les premières séances, on découvre combien on est bloqué. Il faut quand même que je vous le dise. Je ne suis pas en train de vous dire « la psychanalyse, les autres psychanalysent ». Je pense que c'est un scooter et que les autres sont peut-être des motos, et j'en sais rien, qui va le plus vite. L'intéressant, comme dans toutes les techniques, c'est d'essayer de s'y donner. Et même quand on l'a choisi, la première chose qu'on découvre, c'est combien on n'a pas envie d'aller voir ce qu'on cherche. Et donc il va falloir, au lieu que ça soit des blocages verbaux, au lieu que ça soit une confusion verbale, il va falloir qu'on sorte d'une certaine paralysie du corps. Et au contraire, plus il va se raidir, plus il va manifester qu'il n'a pas du tout envie de dire. Mais s'il n'y avait rien, il ne se raidirait pas. Donc nous, on va se servir de la raideur, c'est-à-dire ce corps, on va lui avoir montré un genou dans lequel il tient beaucoup de choses, Mais à partir du moment où on va avoir montré au corps qu'on a vu, que sur le genou, il pourrait nous raconter des trucs, le corps va se raidir, parce que comme tout menteur qu'on a pris en flagrant délit de mensonge, il va forcément avoir des réactions émotionnelles. Si dans le deuxième temps, au lieu de montrer au corps qu'il a un genou qui ne va pas, on lui montre combien il s'est raidi, il y a une surenchère, il va se raidir encore plus. Et puis il va se raidir tellement qu'à un moment donné, quelque chose va commencer à échapper. Comme dans une petite écluse qui, dans un goutte à goutte, va ne pas pouvoir tenir très longtemps ce secret si lourd depuis tant d'années. Donc je pense qu'au départ, il y a deux temps. Nous le faisons d'une façon technique extrêmement simple. L'ostéopathie nous apprend à identifier les mouvements qu'on appelle de respiration osseuse. Ces mouvements ne sont pas symétriques de respiration osseuse de nos os du crâne, de tout notre système osseux. Ces mouvements ne sont pas symétriques et le thérapeute a généralement pour rôle de faire passer cette respiration asymétrique et de rétablir un bon fonctionnement, une bonne respiration des tissus, ce que nous appelons. Nous, au contraire, alors il faut comprendre que quand je découvre cette chose, c'est parce que je suis en train d'apprendre l'ostéopathie. Et donc, comme je suis en train d'apprendre l'ostéopathie, je suis avec ces corps et mes mains sur ces corps, très très en train de m'éduquer à sentir ces déséquilibres, ces micro-déséquilibres. C'est comme si je disais au corps, ah ouais, c'est fou comme tu respires de travers, quoi. Alors que les thérapeutes passent tout de suite à la phase suivante. Ils disent, bon, j'ai vu que tu respires de travers, maintenant je peux amener des corrections, etc. Comme moi, j'étais en phase d'apprentissage à cette époque-là. Je passais beaucoup de temps à déguster le fait que je sentais bien que ça respirait de travers. Donc, alors ça, oui, vous savez, comme un petit nouveau qui découvre un truc, quoi. Ah, ça, oui. Et comme je restais longtemps sur ce corps, à lui faire sentir combien, mais c'est fou comme tu respires de travers, ce corps disait, mais oui, ça fait tellement d'années que je respire de travers, et je vais te raconter pourquoi. Et c'est comme ça qu'on commençait. Et donc, aujourd'hui encore, nous démarrons avec notre œil de kinésithérapeute et d'ostéopathe, en ayant identifié une zone du corps qui comporte des tensions, en allant faire voir à ces tissus que nous avons identifié cette respiration déséquilibrée, et au lieu d'aller jusqu'à l'acte thérapeutique, nous restons dans l'acte de constat. Nous restons dans l'acte de constat en regardant combien dans nos mains, mon Dieu, comme cette épaule ne s'ouvre pas, comme elle s'envoie sur l'expiration, mon Dieu, comme, etc. Et comme il y a accord de notre main constatant combien ce corps s'envoie, ce corps ne nous prend pas pour ennemi et commence à nous dire, eh bien, si tu savais depuis quand j'ai coincé là, alors au début, il ne le dit pas aussi simplement, hein, je résume là. Au début, il dit très très grossièrement, non, 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 et après, il faut savoir à quel nom il s'adresse. Donc ma première réponse, c'est techniquement, voilà. Au départ, nous indiquons au corps, par une technique extrêmement précise de respiration osseuse, que nous avons vu qu'il respirait d'une manière déséquilibrée, et le corps, nous sentant en sympathie ou en empathie, eh bien, commence à raconter. Il appartient à nous de faire comprendre à la personne qui est couchée, reste vigilante, il faut qu'il y ait une partie de toi qui observe et une partie de toi qui laisse faire. Qu'est ces deux parties? Et à la fin de la séance, la personne écrit ce qu'elle a vu et au départ, pendant des mois, on leur demande de n'absolument jamais croire aux versions qu'ils racontent. Que quand ils auront acquis l'intime conviction que ce qu'ils racontent est juste, ils pourront croire à l'histoire qu'ils racontent. La deuxième réponse que je... C'était quoi votre deuxième question? Ah voilà, les vies antérieures. Le problème ne se pose pas parce que, en fait, je crois que nous n'avons aucun intérêt pour ces aspects des choses. Donc les gens ne nous racontent pas les vies antérieures. Donc on n'a jamais rencontré, sur les centaines de dossiers dont nous disposons depuis 20 ans, nous n'avons jamais rencontré, à de rares exceptions près, des gens qui parlent de choses qui n'étaient pas possibles dans leur vie, qui vraisemblablement un jour, dans une maturité peut-être plus grande de toute cette quête, des êtres, des hommes se consacreront à comment comprendre effectivement l'éventualité de vie antérieure. Comme nous n'y accordons aucune importance, nous n'avons pas certainement permis l'expression de ces choses-là.
Et quelle différence vous faites entre un souvenir et
un revécu? Ben, c'est que je pense qu'un souvenir, c'est toujours quelque chose où de toute façon celui qui souvient, c'est-à-dire la partie qui observe la télévision, ne se souvient que de ce qui l'arrange. Alors que le revécu, celui qui assiste au revécu, il assiste à ce qui l'arrange et à ce qui ne l'arrange pas.
Dans votre livre, vous parlez de 4 traumatismes qui peuvent être donc retrouvés lors de ces séances de psychanalyse corporelle. Alors pourquoi 4? Pourquoi pas 6 ou 7?
Ben vous savez, je crois qu'au départ, nous nous sommes retrouvés dans un bateau, toute une équipe, et on s'est demandé d'abord si on n'était pas en train d'engendrer, notre entourage nous y encourageait d'ailleurs, si on n'était pas en train d'engendrer une hystérie collective, c'est-à-dire des gens venant nous voir juste pour se défouler sur une moquette et raconter n'importe quoi. Après tout, c'était bien possible. Et donc, au départ, nous avons assez immédiatement essayé d'avoir des dossiers précis, essayé d'avoir, quant à ce qui était redécouvert, des fois, nous avions des possibilités, parce que les personnes n'étaient pas suffisamment vieilles, de vérifier si dans les cliniques, il ne demeurait pas des dossiers, etc. Les dossiers sont quand même gardés très longtemps dans les hôpitaux. Et donc, au départ, nous avons fait un travail de documentation, de dossiers, afin d'étayer le fait que il fallait parvenir à objectiver qu'il y avait une logique dans tout ce qui arrivait. Donc il faut que vous vous imaginiez qu'au bout d'une dizaine d'années, comme nous sommes quand même un petit nombre à pratiquer cette technique, nous avons eu des centaines de dossiers. Et un beau jour, il s'est produit un de ces hasards que seule la vie offre, c'est-à-dire alors que nous étions en train de nous demander vraiment qu'est-ce que nous avions entre les mains, nous avons commencé à rencontrer cette équipe qui, de l'autre côté des États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, pardon, aux États-Unis, autour de Kubler-Ross et du docteur Moody, travaillait sur les états de conscience comateux, ce qu'on appelle les NDE, les états proches de la mort. Et nous avions sur les bras des états proches de la naissance, avec des gens qui retrouvaient leur naissance. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on jubilait de bonheur, on se disait, c'est peut-être un délire complet, ces états proches de la naissance que les gens retrouvent avec nous. Et on avait beau freiner, je dirais même, c'est comme si l'inconscient était friand de nous casser les pieds à retrouver que ça. C'est-à-dire qu'on avait beau freiner de tout ce qu'on pouvait pour que les gens n'aillent pas vers ce travail de rencontre du traumatisme périnatal, comme nous l'appelons, les gens y retournaient. Heureusement, un jour, nous rencontrons un peu le travail qui se faisait aux États-Unis, à côté de Kubler-Ross et de Moody, et nous rencontrons surtout leur méthodologie. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont dit, eux aussi scientifiques, ils se sont dit, bon, voilà des gens qui sont dans le coma, voilà des gens qui reviennent à la vie, voilà des gens qui racontent une expérience. Soit on les prend tous pour fous, soit on essaye de se dire, il y a de toute façon une manifestation de la vie psychique, un état modifié de conscience. Et à partir de là, nous nous sommes dit, nous aussi, nous sommes devant un état modifié de conscience. Cette psychanalyse corporelle, c'est un état modifié de conscience. Et il nous faut en étudier les paramètres. Et donc, nous avons commencé à faire des dossiers, en faisant, puisque à la fin de chacune de nos séances, les gens rédigent, parlent d'abord, puis ensuite rédigent ce qu'ils ont écrit pour bien conscientiser, et ensuite pour évoluer de scène, de semaine en semaine, dans une scène qu'ils vont peu à peu mettre à jour, un peu comme Columbo à la télévision règle une enquête. Et bien, peu à peu, ces dossiers nous ont montré, dans un espèce de portrait robot général où nous n'avons retenu que les faits que nous retrouvons tout le temps en éliminant tous les faits marginaux que nous retrouvions que très rarement. Dans un espèce de portrait robot, nous avons fait comme pour les NDE, un espèce de portrait robot de cet état de conscience modifié, nous avons découvert que la plupart du temps, quatre grands événements du passé construisaient et entretenaient notre personnalité. Je vais utiliser des images parce qu'il serait trop complexe de rentrer dans les détails. Globalement, je dirais, quand nous traversons cet incroyable moment de l'accouchement et de la naissance, nous traversons un certain nombre d'étapes qui constituent des espèces de façons de résoudre des problèmes pour la vie psychique naissante. Ces façons de résoudre des problèmes qui sont à chaque fois aux limites de la déraison, aux limites de la mort physique et de la mort ou de la mort psychique, à chaque fois le bébé, le nouveau-né, doit résoudre une espèce de maturité rapide, ne serait-ce que par exemple, imaginez dans la troisième phase de l'accouchement, dans la troisième étape de l'accouchement, au moment où il y a ce que nous appelons les points de blocage, nous nous sommes aperçus qu'à ce moment-là, le nouveau-né vit tous les grands drames de la grande mythologie grecque, il va devoir sacrifier ce qu'il a de plus cher au monde, c'est le ventre qu'il enfante. Il va devoir, comme dans toutes les grandes pièces de la mythologie grecque, résoudre un problème, ce que j'aime le plus, il va falloir que je le force. Et il y a là-dedans une résolution psychique auquel sa maturité intérieure n'est pas prête et il doit trouver des solutions. Et au départ, il va dire non dans cette troisième étape de la naissance. Au départ, il va dire, ah non, pas question, point de blocage, moi j'avance plus, moi je peux pas sortir s'il faut en plus que je déchire le ventre de ma mère, ah non, pas question. Sauf que ce pas question va être mis en brèche par une douleur qui va grandir, parce que tout ce qui n'avance pas, surtout à la naissance, mais plus tard c'est aussi vrai, tout ce qui n'avance pas dépérit. Et donc tout ce qui n'avance pas souffre de plus en plus pour reprendre la marche. Il y a une espèce de grammaire entre ce qui ne progresse pas va souffrir. Et dans les points de blocage, cette troisième étape de la naissance, plus il va dire « ah non, c'est pas possible », plus le temps va passer, plus la douleur va monter. Et il va rencontrer un seuil de perception de lui-même où il va dire « si, c'est possible quand même, parce que ça commence vraiment à me faire mal ». Puis à un moment donné, il va petit à petit, en fonction de la douleur et de sa manière de résister à la douleur, être capable de dire « ah non, là, faut que j'y aille parce que ça devient insupportable ». Dans cette étape-là, chacun, nous la traversons de façon différente et nous nous étalonnons de façon différente, peut-être définitivement, quant à la douleur nécessaire pour prendre des décisions graves, par exemple. Peut-être que dans cette première étape se joue toute notre vie une espèce d'étalonnage de décibels de douleur suffisant pour que nous ayons la force de prendre des grandes décisions. Peut-être que 40 ans plus tard, ce petit garçon ou cette petite fille va endurer dans son couple des décibels où il dira « ah non, je ne peux pas partir, non, non, je ne peux pas divorcer ». Puis qu'à un moment donné, il aura suffisamment souffert en cohérence avec cette force de décision de la troisième étape pour pouvoir dire « si, je peux partir ». Globalement, nous rencontrons donc des choses cohérentes que nous rencontrons dans 100% des cas. C'est ce que nous décrivons dans ce livre. Dans 100% des cas ou dans l'accompagnement de la naissance, c'est un autre livre. Et ce que nous découvrons d'autre part, c'est que ce traumatisme périnatal qui nous fait unique en histoire intérieure parce que unique en façon d'avoir résolu les 7 problèmes que pose l'accouchement pour la vie intérieure. Et c'est des problèmes majeurs, hein. C'est vraiment des géants qui naissent. Je crois qu'il faudrait que nous comprenions que l'expérience psychique, spirituelle, métaphysique que vit le nouveau-né à la naissance, c'est une expérience de géant. Que si nous avions à vivre les mêmes épreuves à l'âge adulte ou à un autre âge de notre vie, nous partirions en courant, tellement c'est monstrueux comme épreuve. Eh bien, nous avons traversé ces 7 étapes et nous sommes arrivés sur Terre dans une dimension qui est la dimension humaine. Nous avons quitté une relative perfection pour rentrer dans une chronicité de petitesse. Je vais le dire autrement, nous avons décidé d'habiter désormais dans des petits organes d'essence, tellement nous savons que les grands nous feraient mal si on les gardait. Et donc, le traumatisme périnatal qui se joue au moment de la naissance, c'est l'entrée en humanité imparfaite chronique. Il va falloir que vous l'écriviez, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, nous sommes définitivement imparfaits, il va falloir cesser de chercher la perfection. Que nous pouvons faire, c'est apprendre à sourire de cette imperfection plutôt que de continuer à lui faire la gueule, mais nous sommes définitivement imparfaits. Et cette imperfection première que nous appelons la personnalité traumatique, cette imperfection première, elle est due à quelque chose que nous avons rencontré dans 100% de nos cas. Nous n'avons pas eu un seul cas qui ne traversait pas cette étape. C'est l'étape de... Nous n'avons jamais vu une naissance revécue où le bébé nous dit « Youpi, tout s'est bien passé, je suis vachement content d'être arrivé ». Nous n'avons eu que dans 100% des cas qu'un étalonnage à une personnalité qui va constituer aussi notre épaisseur d'être. Si nous n'avions pas ce traumatisme périnatal, nous serions sans personnalité, sans façon personnelle de résoudre tous les problèmes de douleur sur Terre. Et puis, au fil du temps, dans tous nos dossiers, nous nous sommes aperçus qu'il y avait, de la même manière qu'il y a un vaccin qui produit une action et qu'il faut 3 rappels pour que cette action dure, nous avons découvert qu'il y avait dans la petite enfance, dans l'enfance et à la puberté, 3 espèces de rappels, de moments nœuds, de moments carrefour, qui vont rappeler le scénario de la naissance, comme pour l'adapter à une maturité d'âge qui a varié entre-temps. Nous ne sommes pas le même à quelques heures de naissance, à 2 ans, à 8 ans et à 15 ans. Comme s'il y avait des traumatismes secondaires, nous les appelons secondaires, Freud les appelait autrement, comme s'il y avait des traumatismes secondaires qui réactualisent le traumatisme initial périnatal à une maturité d'âge un peu plus évoluée. Mais ce qui est flagrant dans tous nos dossiers, c'est combien les personnes qui ont retrouvé leurs 4 traumatismes, il y en a heureusement beaucoup, les personnes qui ont retrouvé leurs 4 traumatismes, c'est 4 versions de la même histoire, mais à des maturités différentes. Il n'y a pas un traumatisme périnatal d'abandonné et puis un traumatisme de la petite enfance de trahi et un traumatisme qui appartiendrait à une troisième famille dans l'enfance. Ils ont toutes la même histoire traumatique, toutes les mêmes ingrédients de douleur, les mêmes solutions, sauf que c'est à des maturités différentes de l'enfance, de la petite enfance et de la puberté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas l'affirmer parce que je crois que nous sommes en cours de route d'ouvrir les yeux sur cette vie intérieure humaine si complexe Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a à peu près 3 millions d'années, l'homme décidait de tailler un silex pour faire quelque chose ? À travers ce premier outil, il prenait pied dans le monde extérieur. Avant ça, il n'avait aucune idée du monde extérieur. Il prenait le pied dans la domination de ses instincts. Il était capable de manger un peu plus tard pour tailler son silex. Je crois qu'il a fallu 2000, 4000, 3 millions d'années pour que nous passions du silex aux machines à boutons qui nous ont offert pas mal de confort matériel. Je crois que nous sommes à la préhistoire des outils de la vie intérieure et que notre psychanalyse, je ne me permettrai pas de dire ça pour la psychanalyse verbale, notre psychanalyse est un silex du travail intérieur. Globalement, aujourd'hui, nous disons, mais nous sommes petits, aujourd'hui, nous disons, il semblerait que dans 100% des dossiers que nous avons, il y a toujours eu un traumatisme périnatal et toujours eu trois traumatismes secondaires. Un de la petite enfance, qui se passe à peu près dans la première année, qui est la découverte du mensonge, qui peut prendre plusieurs formes. Un dans l'enfance, qui est une situation généralement d'ambiguïté sexuelle et de conflit entre la honte et le plaisir. Et un troisième qui va être de découverte de soi dans la relation amoureuse. Donc, c'est vrai que chacun de ces traumatismes ont une personnalité très particulière.
Est-ce que le public a des questions ?
Est-ce que je vous ai répondu ? Je vous ai répondu ? Mais c'est à toi que je réponds. C'est intéressant que je répondais.
Oui, alors à vous écouter, il semble que vous ramenez à peu près toutes les souffrances humaines au traumatisme de naissance. Apparemment, ça c'est une question qui est quand même une question qui s'est posée à la psychanalyse, car Otto Rank avait justement cette opinion.
Tout à fait.
Et la psychanalyse donnait par contre une bien plus grande part aux constitutions psychiques qui ont suivi la naissance, donc le découpage de l'appareil psychique, la constitution du surmoi, donc avec des façons de se créer des souffrances, des culpabilités, des tas de choses comme ça, qui sont essentiellement plus tardives. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ce que je vous dis là ?
Je vous dirais, alors il faudra que vous ayez... Et j'espère que dans les dizaines d'années qui viendront, nous aurons cette ouverture d'esprit. Comme nous avons eu le nez dans le guidon, nous n'avons pas eu la possibilité de faire un travail de rapprochement avec la psychanalyse fondatrice de cette réflexion si héroïque d'il y a un siècle. Vous vous imaginez que c'était il y a un siècle que ces gens-là commençaient à regarder dedans au lieu de regarder dehors. Il faut que vous entendiez, non pas parce que nous avons quelques crispations qui soient contre la psychanalyse classique, mais parce que nous avons passé notre temps à observer ce qui se produisait, que nous avons un tout autre découpage. C'est-à-dire que nous n'avons pas de moi, pas de surmoi, pas de ça, pas de... Nous sommes dans des plans de conscience, dans des plans de conscience différents, qui sont incarnés par les règnes d'ailleurs. Nous considérons qu'il y a en nous un plan de conscience qui correspond au dehors, au monde végétal, un plan de conscience qui correspond au monde minéral, etc., etc. Donc nous fonctionnons selon une autre identification du monde intérieur. Nous avons fait un autre état des lieux, mais entendez bien ce que je vais dire. Nous avons fait un autre état des lieux parce que les circonstances nous y ont poussés. Peut-être que nous aurions été psychologues, nous aurions eu la chance d'être kinésithérapeute et psychologue, on aurait pu avoir la force de faire la synthèse. Nous ne sommes pas de cette grandeur, donc nous avons fait un autre état des lieux, peut-être qu'un jour des gens feront un rapprochement. Et donc pour nous, ce qui se passe dans le traumatisme périnatal, d'abord nous n'excluons pas qu'il y a d'autres traumatismes, même vraisemblablement un traumatisme de la conception, mais tant qu'on n'aura pas compris jusqu'au bout le traumatisme périnatal, on ne pourra pas comprendre ce qui se passe dans la conception. Donc d'abord, nous n'excluons pas qu'il y a d'autres traumatismes. Dans ce que nous observons aujourd'hui, nous disons, à partir des phénomènes, de la manière dont nous avons digéré la survenue de la douleur dans notre monde, parce que c'est ce qui se passe lors de la naissance, les étapes de la naissance nous font prendre de la douleur plein la tête et nous obligent à nous en sortir ou à devenir fous. Ou à mourir, ou à devenir fou, ou à naître. Et on a que ces trois solutions. Et chacun de nous, dans ces étapes de la naissance, a trouvé des solutions dans ces rendez-vous. Et à la sortie de cette naissance, ces solutions que nous avons trouvées vont constituer notre personnalité traumatique, qui fait que quand nous rentrons dans chaque instant, nous le relisons comme identique à une naissance dans le monde. Et nous traversons cette naissance non pas dans le monde, mais dans notre monde. Et nous faisons non pas, nous ne vivons pas le monde, mais notre projection du monde. Et il nous est possible donc, dans ce cas-là, soit de demeurer dans cette petitesse traumatique, si je vais simplifier le langage, c'est-à-dire c'est ce que nous appelons la petitesse traumatique de ce que nous sommes si nous faisons rien sur nous-mêmes. Soit au contraire de faire un certain travail sur soi, et ça va être soit la dimension psychologique, psychothérapique ou alors spirituelle, c'est-à-dire un certain travail sur soi de retournement, c'est-à-dire non pas d'élimination de notre petitesse, mais d'apprendre à profiter de notre petitesse pour en faire une grandeur. Tout le travail va être, donc oui, si vous me demandez, mais vous avez l'air de dire que toutes nos souffrances dépendent de ce traumatisme, oui, parce que je pense, nous pensons, nous ne pouvons pas l'affirmer, nous pensons que c'est une programmation d'ordinateur, et que l'ordinateur ensuite, quoi qu'on lui mette dedans, il va le faire rentrer dans cette programmation, et qu'on ne peut pas changer cette programmation. Et tant mieux d'ailleurs, elle nous donne une personnalité, sinon nous serions des animaux sans personnalité. Et donc, oui, je pense qu'ensuite, mais par contre, je ne peux pas rentrer dans les détails, il est évident qu'il vient s'y ajouter des expériences nouvelles que va devoir intégrer le cycle traumatique, ce que nous appelons la psychologie nucléaire. C'est que nous prétendons qu'il existe une intelligence à l'intérieur de nous qui est un cycle traumatique qui digère en permanence tous les événements que nous vivons en souvenir et en mémoire de ce qui nous est arrivé dans notre naissance et dans les traumatismes de l'enfance. Et que apprendre à aimer son passé, redécouvrir son histoire, redécouvrir ses traumatismes, ça n'a d'intérêt que pour être plus fort dans le prochain instant où je vais pouvoir sourire à ma petitesse, déjà première chose pour éviter de la repousser. Plus nous la repoussons, plus elle devient forte. Plus nous l'accueillons, plus elle s'affaiblit. Donc apprendre à aimer sa petitesse, c'est d'abord en comprendre comment, et j'ai beaucoup aimé ce que disait tout à l'heure la personne précédente, c'est comment ça nous est arrivé, qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui nous rend innocents de notre petitesse présente, au lieu d'être en permanence devant cet immense tribunal qui fait que chaque fois que nous vivons un instant, même si ce n'est pas conscient, nous savons que nous aurions pu mieux dire « je t'aime », mieux dire « bonjour », mieux dire « au revoir ». Et nous partons avec une certaine frustration de nous dire « bon, eh ben, ça sera tout à l'heure », mais on reste quand même blessé de ne pas avoir été meilleur. Je crois que pour avoir une chance d'être meilleur, il faut, un, apprendre à sourire à son passé. Et pour sourire à son passé, il faut d'abord le connaître. Et donc ça, c'est plus thérapique. Ça appartient à une espèce d'hygiène psychique dont il va falloir parler, un de ces quatre. On ne se lave pas que le corps. On pourrait aussi se laver de quelque chose de terrible qui, à mon avis, nous harcèle du matin au soir et du soir au matin, et qui fait que le soir, nous ne sommes pas seulement fatigués de tout ce que nous avons fait, nous sommes pour une grande part fatigués du jugement contre nous-mêmes. Et que apprendre une toilette psychique qui pourrait consister en connaissant son passé, à se réconcilier avec sa bêtise ordinaire, déjà ça nous ferait passer des meilleures nuits. Donc nous nous servons de ce passé pour travailler dans le présent. Je l'ai dit tout de suite d'entrée de jeu, notre perspective n'est pas une perspective thérapeutique, ou alors faudrait étendre le thérapeutique au fait que nous sommes imparfaits tous définitivement. Notre perspective, c'est des êtres qui se disent, bon d'accord, je suis quand même un peu tordu, boiteux, pourri, quasimodo, mais j'ai deux solutions, je ne pourrais jamais redresser la bosse. Si j'apprenais à danser la valse bossue, au lieu de continuer à me cacher. De ce point de vue-là, nous avons besoin, dans une étape de notre travail, dans une partie de notre travail, du travail sur le passé pour apprendre à sourire aux bêtises de notre présent.
Ça me soulève une question. Alors pourquoi les personnes retrouvent des scènes traumatiques et pourquoi pas des scènes de bonheur là ?
Ben, j'en sais rien, pourquoi pas moi. Je ne suis pas responsable de ce que les gens... Il faudrait demander, est-ce que vous avez demandé aux psychanalystes pourquoi les gens qui vont voir les psychanalystes ne leur disent pas ben « moi ça va vachement bien ». Je pense qu'on n'irait pas voir un psychanalyste si c'était pour lui dire « ça va vachement bien ». Donc moi j'en sais rien, pourquoi on me demande sans arrêt « mais pourquoi vous trouvez, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il faille toujours passer par la douleur ?» Mais j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai fait l'homme. Donc je ne sais pas pourquoi... Ce que je sais par contre, parce que nous avons mis du temps, je le raconte dans ce livre au début, nous avons mis du temps à comprendre les niveaux de profondeur de cette psychanalyse, parce qu'elle a plusieurs niveaux. C'est un peu comme un archéologue qui viendrait étudier son, les couches sédimentaires de son histoire, quoi. Ce que je sais, c'est que quand les gens ont trouvé, ils sont dans un état de plénitude qui n'a rien à voir avec le moment où ils cherchent. Et que ce que nous appelons l'intime conviction, c'est-à-dire c'est au moment où ils savent que ce qu'ils racontent, c'est vrai, c'est évident qu'il y a une autre façon de parler, une autre façon de regarder, une autre façon, et que pendant des heures, après, on les met en situation de tranquillité, parce que pendant des heures, il y a ce qu'on appelle, nous, la douche d'amour, c'est-à-dire ce qu'ils ont compris dans leur passé rééclaire plein d'événements de leur vie. C'est-à-dire c'est comme si, soudain, à la lumière de ce qu'ils avaient enfin compris à un moment donné, eh bien, un certain nombre de choses, pendant quelques heures ou quelques jours, avant que la vie les reprenne, un certain nombre de choses se rééclairent et se recomprend. Donc là, il y a un moment de bonheur, là.
Vous dites aussi dans votre livre que le traumatisme produit toujours un moins voir, le traumatisme périnatal, produit toujours un moins voir pour moins souffrir. Et que ce moins voir fait perdre la moitié de la perception du monde. Alors, est-ce qu'il est possible de retrouver cette moitié perdue ?
Ben, je crois, oui. Je crois, c'est un jour, quelqu'un nous a essayé de nous faire comprendre, pensant qu'on ne comprenait rien du tout, parce qu'on était des abrutis devant sa douleur. Et un jour, à la fin d'une séance, quelqu'un a essayé de nous dire mais enfin, c'est comme si y a une étape où on découvre que tout le monde est faux, quoi. Que l'échantillon d'humains qui sont dans cette salle d'accouchement, qui est le gynéco, la sage-femme, parfois le mari, et tout le monde, dans cet échantillon d'humanité, tout le monde est archi-faux. Et cette découverte est très violente. Je l'appelle, moi, la découverte des hommes sans amour. Et c'est très violent pour l'enfant de découvrir cette partition très bizarre qui fait que nous sommes imparfaits et que nous ne voulions pas que ça se voit, alors que ça crève les yeux. Et puis, cette personne nous disait, tu sais, dans cette étape-là, c'est comme si on était dans un stade de foot et qu'on voyait la folie du monde. Et comme si on gardait les organes d'essence qu'on a d'habitude, on deviendrait fou avec eux, tellement on sentirait toute la douleur des gens qui sont dans ce stade. Il disait, tu n'as pas idée ce que c'est que de sentir la douleur des autres, me disait cette personne. Tu n'as pas idée, si nous devions dans cette pièce tous sentir les douleurs de tous ceux qui sont dans cette pièce, soit on aurait beaucoup travaillé sur nous, soit on serait tous marteaux. Il disait, encore le pire, c'est pas ça, c'est que dans l'étape suivante, on se dit, au moins maman, elle n'est pas comme ça. Et à un moment donné, on tourne la tête et dans le stade, on voit que notre mère, elle est aussi folle que les autres. Et à cet instant-là, parce que c'est poétique, bien sûr, tout ce que je vous raconte, à cet instant-là, l'enfant dit, ben, y a deux solutions, quoi. Si je me mets à sentir toute cette douleur tout le temps, toute ma vie, je vais devenir fou. Donc c'est ce que nous appelons le moment où il décide d'installer un écran. Les traditions spirituelles en parlent, disent entre la naissance et la mort s'installe un écran qui fausse votre vue. Il décide d'installer un écran parce que le moins voir qui va s'installer dans nos organes d'essence, dans ce que nous appelons les petits organes d'essence, ce moins voir va être pour conserver la raison. Si nous n'accédions pas à cette dimension humaine du moins voir pour moins souffrir, eh ben nous souffririons la somme des souffrances auxquelles nous assisterions et il faudrait un système nerveux bien plus évolué que le système nerveux moyen de l'humanité d'aujourd'hui qui viendra peut-être dans le temps des temps futurs quand il n'y aura plus que des éveillés sur Terre, que des Ramdas, que des Sœurs Teresa et on se dira bonjour Abbé Pierre, bonjour Sœur Teresa. Mais enfin, pour l'instant, nous sommes tous des êtres imparfaits qui avons d'abord à apprendre à sourire notre petitesse. Et je crois que là, à cet endroit-là, eh ben, alors, après, ça ne veut pas dire que c'est une impasse. Ça veut dire que ces petits yeux qui nous sont offerts et qui sont la nature humaine, et ce n'est pas, il faut cesser de lui donner ce côté péjoratif que contient peut-être le péché originel. Mais c'est le sens, pourtant. Cette espèce de péché originel du christianisme qui constate un état des lieux de la vie intérieure, c'est peut-être ce traumatisme périnatal qui nous affuble d'un moins voir pour moins souffrir, parce que sinon on deviendrait fou. Mais entendez une chose, vous qui cherchez en psychanalyse, ou d'autres qui cherchent en spiritualité, ou d'autres qui cherchent, où prenons-nous l'énergie de chercher quelque chose si nous ne savions pas que nous l'avions perdu ? C'est bien que nous avons perdu quelque chose et ça contient l'obligation que l'humanité a eue d'inventer les religions, l'obligation d'inventer les mouvements spirituels, l'obligation d'inventer les psychanalystes et la quête. Et quel que soit le véhicule que nous utilisons, il y a une vraie sincérité là-dedans pour chacun de nous, d'aller retrouver un espèce de paradis perdu dans une terre promise. Il a bien fallu perdre quelque chose pour que consciemment, et c'est le consciemment qui fait la différence, nous retrouvions ce que nous avions gratuitement avant. Si nous ne l'avions pas perdu, cette conscience, ces grands organes d'essence, nous ne pourrions pas la retrouver consciemment. Elle nous serait offerte gratuitement, comme à la petite enfance. Et les petits-enfants, je vous assure qu'ils voient tout, sauf qu'ils voient beaucoup, ils vont petit à petit de moins en moins voir. Au moment de la naissance, c'est invraisemblable ce que nous racontent les nouveau-nés. Les gens qui, à 40 ans, retrouvent leur naissance, c'est invraisemblable ce qu'ils savent des gynécos. J'ai des groupes de gynécos qui travaillent avec moi aujourd'hui, ils ont la trouille maintenant. C'est invraisemblable à nouveau-né combien il sait la vie intérieure du gynéco qui est en train de travailler. Heureusement, quelques minutes après la naissance, il ne pourra plus supporter de voir la douleur du monde. Donc il va décider d'avoir des petits yeux pour moins souffrir. Ceci dit, il faut l'entendre du côté du positif. Comment pourrions-nous être conscients consciemment si nous n'avions pas perdu la conscience gratuite? Nous n'aurions aucun goût des grands yeux, aucun goût de la conscience. Nous ne saurions même pas ce que c'est que tout voir, tout sentir, si nous n'avions pas perdu ce tout voir, tout sentir. Et si, quelle que soit la forme, par la psychanalyse, par la spiritualité, par la religion, chacun de nous essayait de retrouver ce paradis perdu dans une terre promise de l'expérience intérieure. Quel que soit le nom que vous allez donner à ce retournement, c'est pour une terre promise de votre être, le meilleur de vous-même.
Nous n'avons plus que 2 minutes avec Bernard Montault. Y a-t-il encore une question dans le public ?
J'ai été intéressée par ce que vous dites sur la douleur, justement. J'ai fait moi-même une expérience du type de celle que vous évoquez, c'est-à-dire que je peux même dire que j'ai terminé ma psychanalyse sur une table de massage. Que le kiné n'est pas du tout intervenu.
Si je peux me permettre de vous couper, à un moment donné, je suis descendu de la table parce qu'ils en tombaient sans arrêt. C'est pour ça qu'on est par terre maintenant.
Je ne suis pas tombée. Bon, ce kiné, je ne pense pas, n'avait pas de formation particulière, je pense. Mais effectivement, bon, l'expérience psychanalytique que j'avais m'a permis d'analyser ce qui se passait en moi. Et bon, ça a été formidable. Alors, c'est vrai que je suis intéressée par l'articulation entre la psychanalyse et le travail corporel. J'aurais aimé que vous ayez travaillé vous-même déjà avec des psychanalystes ou quoi. Je pense que c'est peut-être
ça. Des psychanalystes dans notre équipe maintenant.
Oui, c'est ça.
Nous avons des psychanalystes classiques qui se sont formés à la psychanalyse corporelle parce qu'ils pouvaient comparer et qu'ils avaient envie de se servir des deux. Mais moi, là, je ne peux pas vous en parler. Ce n'est pas
d'accord.
Ma formation.
Non, alors, simplement, ma question, c'est... j'entends là qu'il y a le travail physique que vous faites et puis il y a un temps de verbalisation. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de cette verbalisation? Parce que c'est tout le problème qu'on a en psychanalyse. Parce qu'après, ce sont des interprétations. Donc,
nous nous laissons interpréter. Nous faisons comme Colombo. Vous avez dit quoi, là? C'est tout, nous nous contentons de faire ça pour qu'ils verbalisent et qu'ils ils vont voir pendant plusieurs scènes, pendant plusieurs séances, la même scène. Ils sont sous la table, machin. Alors d'abord, elle a une robe rouge. Non, elle n'est pas rouge, elle est verte. Elle est à carreaux. Non, elle est à rayures. Et on les aide simplement à dire, ah ouais, elle est fermée ou elle est ouverte, la porte? Elle est fermée. Et puis c'est tout. Donc on les aide à formuler leur délire. C'est-à-dire, on leur dit bien, vous n'êtes absolument pas autorisé à croire ce que vous avez dit, mais vous l'avez vu, dites-le, vous n'avez pas de raison de le taire. Donc on les aide à formuler, sans jugement, tout ce qu'ils veulent. Ensuite, petit à petit, ils vont rentrer dans des couches, il y a des choses qui ne sont pas possibles, où ils vont se contredire, ou d'une fois à l'autre, comme ils écrivent après, ils vont dire, ah tiens, c'est bizarre, j'ai dit l'inverse la dernière fois. On va dire, ça fait 2 versions, il y en a bien une qui à un moment donné va s'éliminer, ou alors on va en trouver une troisième qui marie les 2 autres. Nous, on laisse les choses se formuler. On est simplement, comme Colombo, quelqu'un qui excite l'inspecteur pour lui faire trouver la solution. Alors après, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de transfert, contre-transfert, tout ça se produit, c'est évident. Mais tout thérapeute connaît ça, c'est pas...
Moi, j'ai eu la chance, finalement, qu'il n'y avait pas personne m'exciter pour chercher quoi que ce soit, en fait, parce que ce kiné faisait tout son travail normal.
Oui, mais vous aviez été excité dans votre psychanalyse à côté.
C'est moi qui étais.
Si je peux me permettre l'expression.
Oui, bien sûr.
Nous avons affaire la plupart du temps à des gens qui n'ont rien fait. Et pour qui, d'ailleurs, souvent, la psychanalyse verbale leur ferait peur, parce qu'il y a quelque chose encore qui traîne. Il faut être malade pour aller faire une psychanalyse. Si on l'a fait corporellement, il faut juste se lâcher. Ah bon, alors c'est bien lâchez-vous.
Nous allons arrêter puisque c'est l'heure. Si d'autres personnes souhaitent rencontrer, poser des questions à Bernard Montault, c'est possible sur le stand de la psychologie nucléaire.
Merci de votre attention en tous les cas.